VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Camille Grouditi avec vous.
Et Bagassé Koura.
Les grands points de l'actualité, des morts à Gao dans le nord du Mali suite à des affrontements entre la MINUSMA et des manifestants.
Le bilan est très lourd, 3 morts, 4 blessés graves et 7 blessés par gaz lacrymogène parmi les manifestants qui étaient surtout les jeunes écoliers.
Boubacar Touré aura tous les détails. Attentat à Tripoli, au moins 8 morts dans l'assaut d'un hôtel de luxe par des hommes armés.
Reprise de l'activité économique dans le nord-est des États-Unis, moins atteint par la neige qu'initialement redoutée.
En fait, ce sont Boston dans le Massachusetts et Providence dans le Rhode Island qui devaient souffrir le plus, avec entre 50 et 60 cm de neige.
Et ensuite, bien sûr, la page économie et le journal de la CAN, mais tout d'abord le journal.
Le nord du Mali s'embrase à Gao. Des manifestants ont pris d'assaut les locaux de la MINUSMA ce matin à l'appel des mouvements de la plateforme pour dire non à la zone temporaire de sécurité signée ce week-end entre la MINUSMA et la coordination des mouvements armés de l'Azawad. Le bilan est de 3 morts et 11 blessés, dont 4 graves. Le ministre de la Sécurité intérieure est attendu demain sur place. Le point avec notre correspondant Boubacar Touré.
C'est leur deuxième sortie après celle d'hier pour dire non à la zone temporaire de sécurité signée ce week-end entre la MINUSMA et la coordination des mouvements armés de l'Azawad. Marche organisée par la plateforme préliminaire d'Arger qui regroupe le MA Approche du Mali, Gatia et les mouvements de la vallée CMFPR. Les marcheurs qui ont pris départ vers 10h30 à la place de l'Indépendance sont arrivés au siège de la MINUSMA à Boulgoundié, armés de cailloux, de bâtons et de gourdins. C'est bien là que des tirs ont été entendus. Le bilan est très lourd, 3 morts, 4 blessés graves et 7 blessés par gaz lacrymogène parmi les manifestants qui étaient surtout les jeunes écoliers. Durant 2 jours, le marché est resté fermé. Le ministre de la Sécurité et le directeur national de la police sont attendus à Gao demain où ils devront rencontrer les responsables de l'AMINUSMA et les responsables de la plateforme à l'origine de cette marche avec mort d'homme. Il faut le rappeler, cette zone temporaire de sécurité de Tabankort est située sur l'axe Anfis Al-Moustrat sur la route Gao-Kidal. C'est le bastion des groupes armés mais proche de Bamako, qui pensent que la MINUSMA cherche à affaiblir leur position face aux indépendantistes du MNLA. Gao, Boubacar Touré pour VOA Afrique.
L'opposition congolaise a exigé ce mardi la publication d'un calendrier global des scrutins à venir. Dans une déclaration citée par l'agence France Presse, une cinquantaine de partis de l'opposition congolaise et d'associations demandent à la CENI de publier sans délai un calendrier global et consensuel dans le strict respect des échéances prévues par la Constitution 2016. Cette déclaration intervient 2 jours après le vote d'une loi électorale controversée qui a provoqué des violences meurtrières à Kinshasa.
Une plainte contre X a été déposée au Niger par des organisations de journalistes après des violences policières contre certains reporters en marge des manifestations mi-janvier à Niamey. C'est ce qu'a annoncé le responsable d'une association de journalistes nigérienne citée par l'AFP. Et selon Baba Alpha, le responsable de la maison de la presse du Niger, les journalistes ont déposé la plainte à la suite, entre autres, de la fermeture temporaire illégale d'une télévision au jet de grenades lacrymogènes sur 2 autres télévision, l'embastillement et le matraquage des reporters indépendants à l'occasion des événements du 17 et 18 janvier.
12 jeunes hommes ont été arrêtés à Kano dans le nord du Nigeria sous l'accusation de présenter un mariage gay. C'est ce qu'on a appris de l'agence chargée de faire respecter la loi islamique et qui est citée par l'agence France Presse. Les 12 hommes, dont la plupart sont des adolescents, ont été arrêtés hier dans un hôtel populaire des faubourgs de la ville. Selon Aminu Dorawa, le chef de la HISPA, l'agence chargée de faire respecter la charia, toujours citée par l'AFP, l'homosexualité est interdite par la législation fédérale au Nigeria, où a été votée l'an dernier une nouvelle loi interdisant le mariage entre personnes du même sexe.
La Tanzanie a suspendu la publication et la distribution sur son territoire d'un important hebdomadaire régional, Veis Africana. Dans une lettre datée du 21 janvier, les autorités tanzaniennes ont ordonné au journal basé à Nairobi et qui couvre la région depuis 2 décennies d'arrêter sa distribution, son impression et sa publication en Tanzanie jusqu'à ce qu'il soit officiellement enregistré dans le pays. La décision a provoqué bien sûr une rapide réaction des pays membres de l'Union européenne, du Canada, de la Suisse et de la Norvège. Ces pays ont estimé dans un communiqué commun reçu ce mardi par l'AFP que la décision tanzanienne suscitait, je cite, des interrogations sur la liberté de la presse.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Barack Obama en Arabie Saoudite, le président américain a rencontré le nouveau roi Salman et a présenté ses condoléances après la mort du roi Abdallah. Lionel Gaïma.
Air Force One s'est posé à Riyad pour quelques heures. Barack Obama était accompagné, entre autres, de son épouse Michelle, du secrétaire d'État John Kerry et du directeur de la CIA John Brennan. En visite en Inde, le président américain en a profité pour venir présenter ses condoléances après le décès du roi Abdallah. Barack Obama a ensuite rencontré le nouvel homme fort du pays, le roi Salman. Au menu de discussion, la lutte contre l'État islamique et les cours du pétrole qui sont au plus bas depuis des mois. Ben Rhodes, conseiller du président américain, a confirmé que la crise au Yémen, pays frontalier de l'Arabie et allié aux États-Unis dans la lutte contre Al-Qaïda, serait aussi abordée. Après cette visite en Arabie Saoudite, le président américain prend l'avion pour regagner Washington.
En Libye, au moins 8 personnes, dont 5 étrangers, ont été tuées dans une attaque terroriste contre un hôtel de luxe de Tripoli, où séjournent habituellement des responsables gouvernementaux et des délégations étrangères. Jacques Aristide.
3 hommes armés au moins sont entrés dans le Corinthia Hotel, un établissement 5 étoiles situé en bord de mer. Ils ont fait exploser une voiture piégée à l'extérieur de l'hôtel, tuant 3 gardes, avant de pénétrer à l'intérieur et d'affronter les services de sécurité, d'après les autorités installées dans la capitale libyenne. Selon le porte-parole du bureau de sécurité de Tripoli, Essam Nahas, un des assaillants a été arrêté. Un groupe se présentant comme la branche libyenne du réseau terroriste État islamique a revendiqué l'assaut. Depuis la chute et la mort en 2011 de Muammar Kadhafi, la Libye reste divisée. Le pays est dirigé par 2 gouvernements rivaux, l'un établi à Tripoli après la prise de contrôle de la capitale en août dernier par la milice Aoub de la Libye, l'autre installé dans l'Est et reconnu par la communauté internationale.
Tempête de neige massive sur la côte est des États-Unis. Le pire a été évité à Washington et New York, mais le Massachusetts reste enfoui sous la neige. Michel Joseph.
La côte est des États-Unis tourne au ralenti ce mardi, les populations se débattant avec les séquelles d'une vaste tempête de neige qui a affecté plus de 50 millions de personnes sur plus de 1000 kilomètres. Mais le pire a été évité. Alors que les météorologues avaient averti que certains endroits recevraient jusqu'à 1 mètre de neige déversée par des vents dignes d'ouragans, dès mardi matin, ils ont revu leurs prévisions catastrophiques. Certes, New York a reçu 15 cm de neige et s'attendait à d'autres accumulations, mais l'interdiction totale de circuler a été levée mardi matin. Washington DC et la capitale s'en tirent très bien avec quelques centimètres de poudre blanche seulement. En fait, ce sont Boston dans le Massachusetts et Providence dans le Rhode Island qui devaient souffrir le plus avec entre 50 et 60 cm de neige. Lundi, l'activité économique sur la côte est était paralysée, des milliers de vols étant annulés, les ponts et tunnels routiers fermés, les transports en commun suspendant leurs opérations ainsi que les établissements scolaires. On est loin néanmoins des 182 cm de neige qui se sont abattus sur la région de Buffalo entre le 18 et le 20 novembre 2014.
Comme quoi il faut rester au chaud. En Grèce, le nouveau premier ministre Alexis Tsipras a dévoilé mardi son gouvernement, nommant l'économiste Yanis Varoufakis au poste de ministre des Finances. Monsieur Varoufakis, qui a quitté récemment son poste de professeur à l'Université du Texas, ici aux États-Unis, pour rejoindre l'équipe de campagne de Syriza, est un critique virulent des mesures d'austérité imposées à la Grèce par les créanciers internationaux d'Athènes. Le portefeuille de la défense a été confié à Panos Kamenos, le chef de file des Grecs indépendants, la formation de droite alliée au parti de gauche radical.
Et le vice-ministre japonais des Affaires étrangères, Yasuhide Nakayama, qui a été dépêché à Amman en Jordanie, espère que son pays pourra œuvrer de concert avec la Jordanie pour obtenir la libération de 2 otages aux mains de l'État islamique. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique et place au journal de la CAN, Nicolas Pino.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. Le Sénégal, bien placé pour se qualifier en quart de finale. Le prochain tour où se retrouveront les Diables Rouges et les Léopards dans un derby 100% congolais. La dernière journée du groupe C débute à 18h, temps universel. Algérie-Sénégal et Ghana-Afrique du Sud se joueront en simultané. Les Lions de la Teranga sont premiers du groupe pour le moment avec 4 points. Les Fenech, leur adversaire du jour, sont deuxième ex aequo avec le Ghana avec 3 points. L'Afrique du Sud, elle est dernière avec un seul point. Les Sénégalais n'ont besoin que d'un point pour se qualifier pour cette deuxième confrontation de l'histoire de la CAN entre les deux équipes. En 90, en demi-finale, à domicile, les Fenech l'avaient emporté 2-1. Alors les Lions de la Teranga vont-ils réussir à passer l'obstacle algérien? La réponse tout de suite dans son coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Bonjour. 3 ans après le flop monumental de 2012 sur les mêmes terres, les Lions de la Teranga reprennent des couleurs. Si en 2012, avec un casting digne d'une méga production hollywoodienne, le Sénégal avait présenté une comédie de boulevard, cette fois-ci, les données ont changé, sans tambour ni trompette. Une petite révolution silencieuse s'est opérée discrètement, avec à la baguette le nouvel entraîneur Alain Giresse, qui avait déjà fait un excellent travail au Gabon puis au Mali. Giresse a trouvé au Sénégal une constellation d'individualités, en particulier des attaquants axiaux et des buteurs en série, qu'il fallait bien faire jouer ensemble avec le maximum d'efficacité. Il a fallu surmonter les égos et opérer des choix, mais aussi inventer un jeu collectif et insuffler une philosophie de jeu à un groupe qui avait du mal à jouer la même partition. Le sélectionneur français a alors eu l'idée d'utiliser comme ciment collectif l'équipe espoir de 2012, impressionnante par sa facilité pendant les derniers Jeux Olympiques. Finalement, la mayonnaise a pris. Si on ajoute à cela l'indécrottable habitude des Sénégalais à faire déjouer les équipes d'Afrique du Nord, il n'est pas exclu de voir la 3e journée dans la poule C apporter la première grosse sensation du tournoi, l'élimination du favori numéro 1, l'Algérie. À demain.
Autre match, Ghana-Afrique du Sud. Sur 3 rencontres entre les Black Stars et les Bafana Bafana en phase finale de la CAN, les Sud-Africains l'ont emporté 2 fois. Retour à présent sur la longue nuit à Bata pour les Congolais. Au bout du suspense, la RDC arrache sa qualification pour les quarts de finale. Une première depuis la CAN de 2006 en Égypte. Que ce fut dur pour les Léopards, dominés 1-0 pendant une heure de jeu avant la libération grâce à un but de Bokila. Malgré 3 matchs nuls donc, la RDC se qualifie. Les Congolais passent grâce à une meilleure attaque, le Cap-Vert et la Zambie n'ayant pu faire que match nul 0-0 sur la pelouse détrempée des Bébéines. C'est évidemment la joie du côté de Florent Ibengué, le sélectionneur congolais.
Je suis très content, bien sûr, parce qu'on est arrivé petitement dans cette compétition. Et puis, comme je l'avais dit, on était dans un groupe difficile. On était les derniers classés de notre groupe au niveau classement FIFA. Mais je l'avais bien dit qu'on venait pour tout faire pour passer au deuxième tour. Je crois que vous avez vu encore aujourd'hui, face à la Tunisie, qui est la deuxième nation africaine, on a fourni une belle prestation. On se retrouve en quart de finale, comme on a fait jusqu'à maintenant, croire en nos forces. On sait que c'est un groupe qui est très compact, avec une paire d'attaquants très complémentaires, un qui est très grand, qui tient les ballons, et un qui va très vite. Et au milieu de terrain, ils sont à 4, très travailleurs. Donc, une équipe très difficile à manœuvrer.
Florent Ibengué, le sélectionneur de la RDC. À suivre donc les 2 premiers quarts de finale. Inédit, le duel congolais entre les Diables Rouges et les Léopards. La Tunisie, elle, affrontera le pays organisateur, la Guinée équatoriale. On écoute Georges Likens, le sélectionneur de la Tunisie.
Très bien commencé, on a peut-être oublié de finir le match. Déjà, deuxième mi-temps, quelques occasions que je crois qu'on peut faire mieux, mais on est très content, on est qualifié. Je suis très fier d'être qualifié premier du groupe. Je crois que toute la Tunisie est derrière nous. J'ai déjà entendu que c'est la grande fête et maintenant nous autres, ce soir, ça va encore. Mais dès que demain, on va tout concentrer sur le Guinée qui a fait hier un tout grand match. Un match extraordinaire, mais nous autres aussi, félicitations pour mes joueurs.
Georges Likens, le sélectionneur de la Tunisie, des réactions recueillies sur place par Thierry Camboudi de notre partenaire Top Congo à Kinshasa. À noter que demain, la grande finale du groupe D aura lieu Mali, Guinée et Côte d'Ivoire-Cameroun. Toutes les équipes dans ce groupe ont 2 points chacune et la même différence de but. Le suspense est donc total.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Camille Grodidier et Bagassi Koura pour Le Monde aujourd'hui. La Minute économique, c'est un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Et on retrouve Jean-Roger Bion. Bonsoir.
Bonsoir Camille, bonsoir à tous.
Alors, la centrale à gaz de Kribi va accroître sa capacité de production?
D'une capacité de 216 MW, ce projet d'extension vise à porter la capacité de production de cette centrale à 330 MW. Les consultations publiques de l'étude d'impact environnemental commencent aujourd'hui même et vont durer jusqu'au 25 février 2015.
Et puis, le géant de l'électricité Agreco a annoncé l'extension de 3 ans de son contrat en Côte d'Ivoire.
Agreco produit environ 200 MW via une centrale électrique au gaz, un approvisionnement en électricité qui profite aussi bien aux pays limitrophes raccordés au réseau ivoirien. On écoute le directeur général de Agreco.
La Côte d'Ivoire fournit régulièrement de l'électricité au Mali, au Burkina, avec des raccordements optionnels, et également au Ghana et Togo-Bénin, qui sont raccordés au Ghana. Donc, il y a une interconnexion qui fonctionne bien. Ils sont exportateurs et ils font bénéficier aux pays voisins d'énergie de qualité à prix de revient très intéressant.
Christophe Jacquin au micro de Jacques Aristide.
Les marchés africains à l'air libre offriraient des garanties sanitaires plus fiables que les supermarchés sur le continent?
C'est une nouvelle étude de l'Institut international de recherche sur le bétail basé à Nairobi, au Kenya, qui le dit. L'étude qui a porté sur 8 pays a abouti à une découverte surprenante. Le lait et la viande de ces marchés informels est souvent plus frais et plus sûr que celui que l'on trouve dans les supermarchés qui essaiment à travers le continent. Moralité, on se fait beaucoup plus de soucis sur la qualité de l'hygiène sur ces marchés populaires de Bamako au Cap en passant par Kinshasa, mais le problème pourrait bien résider ailleurs.
Merci Jean-Roger Bion, c'était la Minute Éco.
Voilà, c'est Bagassi Koura et Camille Grodidier en votre compagnie pour ce dossier sur l'actualité du jour.
Au Tchad, le calme est revenu à Doha, dans le sud du pays, où bilan des manifestations de lycéens ont fait 5 morts selon une ONG locale. Mécontents des nouvelles conditions d'inscription à l'examen du baccalauréat, les élèves sont descendus dans la rue. Ils ont saccagé leurs établissements ainsi que le marché local. Pour faire le point, Timothée Donongmaï a joint à Doha Jacques Naldom du réseau des organisations de la société civile du Logone oriental. Il revient sur les incidents d'hier.
Au départ, quand ils ont quitté le lycée, ça a commencé au lycée Pascal. Hein. Donc, les mains sur la tête, ils sont allés au lycée Walter Gans pour aller demander aux enseignants de libérer les collègues. Du lycée Walter Gans, ils se sont dirigés vers le lycée du Quai Bernard Garandi pour demander la même chose. De là, maintenant, un gendarme a poursuivi un élève pour l'abattre à bout portant. Et quand ils ont vu leur collègue tomber, c'est de lui jeter sur le feu et le désordre a commencé. Les enfants de l'école privée comme publique là ont disparu et les parents sont à leur recherche jusqu'à aujourd'hui. Les dégâts sont vraiment longs. Hein. Au lycée, par exemple, là, lycée Bernard, là, ils ont saccagé au bureau. Il y a des ordinateurs qui sont cassés, d'autres sont disparus. Les papiers sont déchirés. Et les bancs de l'école également sont cassés. Le désordre, là, pour l'école, n'en parlons plus. Une femme serait également tombée sous cette balle-là. Et les parents étant mécontents, ne veulent pas amener leurs parents qui tombent sur la balle-là à l'hôpital. L'ambulance de l'hôpital qui venait chercher les blessés a transporté les militaires également. Ils l'ont mis hors d'usage. Au marché moderne de Doha, les élèves sont venus mettre du feu là. Heureusement que les boutiquiers, les opérateurs économiques sont alertés à temps. Ils ont fermé les portes et les hangars sont brûlés.
Ces incidents seraient liés à la publication de la liste des candidats au baccalauréat 2015. Qu'en est-il exactement?
Selon les sources, tout a commencé là. Ils auront dû envoyé cet arrêté-là dès le début de la rentrée scolaire pour alerter aux élèves de ne pas s'inscrire. Ils ont laissé le temps, les élèves se sont inscrits.
Que dit l'arrêté?
Ils sont arrivés au milieu de l'année scolaire, on dit que non, ils n'ont pas passé le bac. L'arrêté dit que ceux qui ont échoué deux, trois fois ne doivent pas passer le bac.
Monsieur Jacques Naldom, du réseau des organisations de la société civile du Logone Oriental, il était joint à Doba, dans le sud du Tchad.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum, ce jeudi, décryptage de la situation en République démocratique du Congo. Après les violences meurtrières autour d'un projet de loi électorale controversé, des Congolais sont descendus dans la rue pour dire non à un éventuel troisième mandat de Joseph Kabila. Questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Malgré la promesse des nouvelles autorités burkinabées, les dossiers Norbert Zongo et Thomas Sankara n'ont toujours pas encore été rouverts. Et récemment, le président Kafando reprochait même à la famille Sankara de ne pas faire assez pour faciliter la tâche de la justice. Réaction ce soir de Maître Prosper Farama, l'un des avocats qui défend les dossiers Zongo et Sankara.
À ce jour, il n'y a eu aucune ouverture officielle de l'un quelconque des deux dossiers, aussi bien le dossier Thomas Sankara que le dossier Norbert Zongo, n'a pas fait l'objet d'une procédure quelconque officielle à ce jour.
Qu'est-ce qui bloque?
Ben justement, c'est la question que nous nous posons nous-mêmes, parce que les autorités de la transition avaient fait des déclarations publiques très très partageuses, avaient même été applaudies, notamment le président à son investiture. Mais aujourd'hui, on ne nous dit pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque. Pourtant, en principe, il n'y a aucun obstacle à ce que ce dossier soit ouvert. Mais nous pensons que c'est toujours le même présentateur politique, que sinon nous ne pouvons pas nous expliquer pourquoi le dossier ne sont pas ouverts.
Alors, ce qui surprend, hein, parce qu'on a vu le Premier ministre lors de la manifestation du 13 décembre pour le journaliste Norbert Zongo, et on a aussi entendu le président Michel Kafando dire qu'il donnait les moyens à la famille, donc à la famille Thomas Sankara pour la suite de l'identification du corps.
Oui, absolument. C'est des positions que nous-mêmes ne comprenons plus, parce que d'abord, aussi bien le Premier ministre que le Président, à chaque occasion qu'ils ont eu de se prononcer sur ce dossier, ils ont déclaré clairement que tout ce qu'ils ont fait pour que le dossier soit réouvert au plus vite possible. Mais aujourd'hui, nous sommes un peu surpris d'ailleurs par les déclarations du Président, qui a dit que les moyens seraient mis à la disposition de la famille pour que la tombe de Thomas Sankara soit, extractivée. Ce que nous disons, c'est qu'il n'avait jamais été question pour la famille de procéder à quoi que ce soit. Il appartenait plutôt à la justice de prendre ses responsabilités, de poser des actes judiciaires concrets. Nous sommes étonnés aujourd'hui qu'on nous dise que l'affaire se trouve dans le cadre de la famille. Ce n'est pas à la famille de rendre justice, de se rendre justice elle-même. Ce n'est pas à la famille de poser des actes. La famille demande à la justice de se saisir du dossier, de l'ouvrir, de prendre des décisions. Et d'ailleurs, c'est ce que le président avait dit. Il avait dit que le gouvernement prendrait toutes les dispositions. Mais nous ne comprenons pas aujourd'hui cette position du président qui était à dire que c'est à la famille de poser quelque acte que ce soit.
Voilà, c'était Maître Prosper Farama, l'un des avocats qui défend les dossiers de Norbert Zongo et Thomas Sankara.
La Coupe d'Afrique des Nations à l'honneur sur VOA Afrique. Retrouvez-nous pour parler des matchs de votre équipe préférée du lundi au vendredi à 19h, temps universel. Composez le 001 202 619 3140 et réagissez en direct. La CAN 2015, évidemment, sur VOA Afrique.
Cérémonie de commémoration des 70 ans de la libération d'Auschwitz. Des survivants de l'Holocauste et des chefs d'État sont retrouvés sur le site de l'ancien camp d'extermination nazi en Pologne. Les États-Unis ont dépêché une délégation de haut niveau dirigée par le secrétaire au Trésor Jack Lew. Dans une déclaration, le président Barack Obama a mis en garde contre une résurgence de l'antisémitisme et il a appelé à faire en sorte qu'un tel génocide ne se reproduise plus jamais. Que représente une telle journée pour la communauté juive? Idriss Fall a joint à Tel Aviv Emmanuel Nachon, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères.
Pour les survivants, c'est une date très importante. 70 ans après, les mémoires de ce terrible génocide sont toujours vivantes. Et pour chaque personne qui a survécu à l'enfer d'Auschwitz, il s'agit vraiment de mémoires qui sont brûlées à tout jamais dans leur cerveau. Et maintenant, pour nous, les membres de la famille, les descendants, le peuple juif de manière générale, évidemment, c'est un événement d'une très très grande importance et nous sommes heureux aussi que le monde entier s'associe à cette mémoire.
La Russie qui a été le premier pays à entrer dans ce camp, mais Poutine n'est pas invité aux commémorations.
Ça ne concerne pas Israël, en fait. C'est une décision qui a été prise par les autorités polonaises. Si je comprends bien, en fait, les autorités polonaises ont décidé qu'il n'y aurait pas de discours de chef d'État, mais seulement des discours de nature religieuse. Et c'est la raison pour laquelle les chefs d'État n'ont pas pu s'exprimer. Mais, encore une fois, il ne s'agit absolument pas d'une décision israélienne.
Angela Merkel, en Allemagne, a pointé du doigt la montée de l'antisémitisme, notamment des groupes néo-nazis.
Oui, c'est effectivement un phénomène qui malheureusement lève la tête. Il faut savoir que l'antisémitisme est l'une des formes les plus abjectes de racisme. L'antisémitisme, c'est quelque chose auquel nous, les Juifs, évidemment, nous faisons face, mais c'est une maladie qui frappe les sociétés. Parce qu'en fait, une société antisémite, c'est une société qui refuse d'accepter une personne qui est différente, qui a une religion différente, qui s'exprime de manière différente. Et je crois que cela touche chacun d'entre nous et nous devons tous être extrêmement vigilants pour que ce phénomène abominable ne prenne pas le dessus.
Surtout que les commémorations interviennent 20 jours après l'attaque d'un magasin cacher à Paris.
Tout à fait. Et cette attaque a démontré justement jusqu'à où peut mener la haine religieuse, la haine de fanatiques religieux qui sont prêts à tuer au nom de leurs croyances. Donc on a vu cette démonstration absolument dramatique à Paris il y a à peu près 3 semaines. Mais c'est une raison de plus d'ailleurs pour souligner que 70 ans après Auschwitz, le message de la libération et le message de la lutte contre le racisme et la haine est tout aussi vivant aujourd'hui que ce qu'il était en 1945.
C'était Emmanuel Nachon, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères.
Chers auditeurs de VOA Afrique, restez branchés dans RM Show aujourd'hui entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, de la bonne musique rap et hip-hop. Dans notre segment Antenne Libre, la question de cette semaine, selon vous, c'est quoi la démocratie? Nous parlerons aussi des pour et des contre de la démocratie. Nous aurons plusieurs invités dans notre studio 13 de VOA. Nous lirons vos mails et vos commentaires postés sur notre groupe Facebook. Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Appelez-nous aujourd'hui entre 20h et 21h, temps universel, au 001-202-619-3140. Je répète, c'est le 001-202-619-3140. Peace Africa!
Bagassi Kouraï, Camille Gros Didier en direct à Washington, à la une ce soir.
Plusieurs morts à Gao dans le nord du Mali. Des manifestants ont pris d'assaut les locaux de la MINUSMA mardi matin à l'appel des mouvements de la plateforme pour dire non à la zone temporaire de sécurité signée ce week-end entre la MINUSMA et la coordination des mouvements armés de la ZAWAD.
La mission des Nations Unies en Centrafrique s'est déclarée indignée par l'enlèvement dimanche du ministre centrafricain de la Jeunesse et des Sports, Armel Sayo.
Barack Obama a fait escale en Arabie Saoudite pour présenter les condoléances de son pays suite au décès du roi Abdallah et pour rencontrer son successeur, le roi Salman.
En Libye, au moins 8 personnes, dont 5 étrangers, ont été tuées dans une attaque terroriste contre un hôtel de luxe de Tripoli.
En Grèce, le nouveau Premier ministre Alexis Tsipras a nommé au poste de ministre des Finances l'économiste Yanis Varoufakis, adversaire de longue date des mesures d'austérité imposées à la Grèce par ses créanciers internationaux.
Mauvais temps dans le nord-ouest des États-Unis. La tempête n'a pas pénalisé aussi lourdement que l'on craignait la côte est des États-Unis et l'activité économique reprenait ce mardi, notamment à New York.
Voilà, ainsi s'achève cette édition du Monde Aujourd'hui qui vous était présentée par Bagassé Koura et Camille Gros-Didier. La mise en onde était assurée par Michel Joseph.
Ainsi va le Monde Aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Vous écoutez le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM. Top Congo, Kinshasa. Nostalgie FM, Ouagadougou. 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.